France Culture.
En 1963, René de Saulier se lance dans une expédition radiophonique singulière, sur les traces des plantes divinatoires et autres champignons hallucinogènes pour l'antenne de la RTF. Une série de 10 émissions est issue de ce projet, à la croisée de l'ethnologie, de la botanique et de la mycologie, la science des champignons, et bien sûr, les sciences des religions. Ces émissions ont leur volet théorique. Elles comportent aussi, ces émissions, des récits d'expériences vécues. Notre expérience, c'est le titre de l'émission que vous allez entendre dans un instant, expérience de l'ingestion de champignons hallucinogènes au Mexique, auprès de Maria Sabina, l'une des plus grandes figures de guérisseuse ou chamane du XXe siècle. Voici donc notre expérience, cinquième épisode de la série d'émissions « Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes » pour la liberté coupable. Cette émission de René de Saulier a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 23 novembre 1963.
La radiodiffusion télévision française présente La liberté coupable. La liberté coupable, troisième série.
Santo, 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 Santo.
Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composées par René de Saulier, avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, notre expérience, avec la voix de la Maria Sabina. Réalisation Pierre Barbier.
Notre expérience au Mexique, à Huautla de Jiménez, à plusieurs, en présence de la Maria Sabina, celle qui connaît le secret des herbes, implique un fait que vous devez entendre en toute vérité, et il est simple, manger, avaler, consommer, si vous voulez, des champignons frais, crus, champignons dits sacrés. Imaginez ce village perdu dans la montagne, montagne extrêmement peuplée puisque 250 000 Indiens vivent là. Il est 20h15, un dimanche soir. Ces champignons doivent être cueillis dans certaines conditions, le matin, sous certaines lunaisons, et avant midi. Ils sont donc frais et ils vont être consommés crus. Dans la chambre saumon de l'hôtel Hacienda, à la lumière de 2 bougies, nous écrivons. Évidemment inquiet, que va-t-il se passer? Au dehors, nous entendons les rires de nos compagnons qui ne participeront pas à l'expérience. Le groupe est nombreux, les élus seront moins nombreux. Dans ce ranch de 2 étages, c'est au 1er étage que la Maria Sabina, tout à l'heure, va officier vers 21h. Elle est accompagnée de ses aides. Et nous sommes au second, dans une grande chambre, juste au-dessus de la pièce qui tout à l'heure va nous assembler. Dans l'ombre, nous savons qu'elle prépare une table nommée hôtel, qu'elle prépare plusieurs lits de camp, puisqu'il faudra à tel moment s'étendre, qu'elle prépare des nattes. Pour l'instant, nous sommes au-dessus, et nous sommes comme en communication secrète avec la chambre qui tout à l'heure va réunir 20 personnes. 20h30. Tous nous sommes à jeun, depuis midi, dans le journal de bord. Je note certaines questions. Première question, reste-t-on conscient? La réponse semble curieuse. À plusieurs reprises, on nous a dit oui. Seconde question, voit-on les autres? Voit-on autrui? Peut-on se voir soi? Autre réponse, oui. Troisième question, peut-on se parler? Certes. Dernière question, nous verrons. Mais que verrons-nous? Silence. Ultime question, puisque nous sommes inquiets, quelle est la nature de la période atroce? De nouveau, le silence. Il est alors 20h45, Il faut à ce propos préciser que, en effet, dans l'expérience, le premier moment est un moment terrible ou terrifiant durant lequel l'on doit affronter ce que l'on a appelé les images noires, c'est-à-dire passé, présent et avenir qui peuvent se catapulter, série de monstres qui, bien entendu, sont enclins plutôt à dévorer, plutôt à attaquer qu'à être, eux, mis en défaite. Il est évident qu'une autre question nous préoccupe, dans la mesure où nous sommes venus avec un matériel à la fois de photographe et aussi d'écrivain, pourrons-nous prendre des photos, pourrons-nous enregistrer, pourrons-nous noter? 20h40. Nous savons que l'expérience doit commencer à 21h. L'instant donc s'approche. Actuellement, la salle préparée au premier étage est dans une demi-obscurité. Encore une fois, sera-t-il possible d'écrire, de noter? Les luminaires, les cierges resteront-ils allumés? Nous n'en savons rien. Curieuse impression à ce moment, juste avant que de descendre, curieuse impression de tension maîtrisée, vive, électrique, à fleur, comme avant l'orage. La peau fourmille, pique. Heureusement, notre matériel est incomplet. Au dernier moment, nous découvrons que des flashs vont manquer. Je demanderai d'ailleurs, dès le début de l'expérience, que l'on arrête tout enregistrement et surtout qu'aucune photo ne soit prise. Dans le village, soudain, tout s'est tu. Il semble que les Indiens, alors qu'il s'agit d'une cérémonie secrète, mais elle est connue de tout le monde, il semble que les Indiens soient en un sens non pas complices, mais participants du rite qui va s'accomplir, rite que nous ne connaissons pas, puisque, ayant voulu arriver frais jusqu'à demeure, les uns et les autres, nous avons à peine parcouru l'état des dossiers, et en nous, il y a toujours la même préoccupation, la même rumeur sourde, peut-être la même inquiétude, dans quel état sera-t-on avant, juste avant. Il me semble que les uns et les autres, nous sommes dans de bonnes conditions pour affronter l'expérience. Mais il faut bien le dire que l'expérience a, pour chacun de nous, et pour nous, une valeur d'initiation. Nous souhaitons indéniablement, et nous avons fait tout pour cela, être dans la meilleure forme possible. Je ne souffre pas, évidemment, du jeûne, de l'ascèse, de l'abstinence curieusement conseillée depuis 3 ou 4 jours par l'un de nos amis anthropologues, qui semble, lui, très désireux d'exiger que chacun remplisse les conditions voulues. 21h. Nous venons d'entrer dans la salle où officie la Maria Sabina. Au dehors, c'est le brouillard de la montagne. Nous entendons encore, avant que la porte ne soit fermée, des bruits d'eau et d'été, des criquets, nous ne savons. Dans ce pays, tout est insolite et la moindre bête ou la moindre feuille semble provenir d'une espèce inconnue. Entrée dans la salle, que découvrons-nous? D'abord, cette table nommée autel. Et sur cette table, une nappe blanche, imparfaite d'ailleurs, c'est une nappe en plastique, une image dite pieuse, l'apparition de la Vierge de la Guadeloupe à Diego l'Indien. Diego l'Indien, en 1531, serait le premier, ayant consommé des champignons, à avoir vu paraître en lui, et non au dehors de lui, la Vierge. D'où la vénération qui entoure cette figure. Près de l'autel, plusieurs personnes, imaginez un groupe de 3 femmes, dont celle que nous nommons la chamane, la Sabina, qui dans le langage espagnol ou de l'endroit est encore nommée curandero, c'est-à-dire celle qui cueille les herbes et celle qui en connaît les secrets. Près d'elle, sa jeune fille, déjà mère, qui commence à être initiée, et près d'elle enfin, un tout jeune enfant qui, très nettement, en tout cas à nos yeux, joue le rôle du païs, de l'enfant nu, célèbre dans toutes les religions d'Hermès, dans toutes les pratiques d'Hermès. Le rôle de l'enfant innocent, de l'innocence présente lors d'une cérémonie complexe, est évidemment un fait rassurant. Mais assez vite, l'enfant, qui semble être là pour la première fois, se blottit dans le giron de sa grand-mère, la Sabina, et semble extrêmement inquiet tout en dévisageant ces étrangers qui commencent à se répartir dans la chambre. La Sabina et sa fille, la prêtresse et l'officiante, vont se tenir agenouillées devant l'autel sur une natte. nous aurons droit à des lits de camp extrêmement rudimentaires, répartis dans la pièce, et ces lits sont axés de telle façon que, si l'on s'allonge, l'on peut découvrir la lumière de la nuit, et vous verrez combien ce fait est rassurant. Sur l'autel, donc, se trouve, l'image pieuse, se trouve deux cierges. Au centre, un sablier, de forme extrêmement rudimentaire et qui ressemble beaucoup à certaines sculptures champignons découvertes il y a peu, et dans le haut de ce sablier, qui en fait est un porteur d'encens, une braise qui, très mystérieusement, va prendre feu, va s'embraser soudain. Sur cette braise, qui donc a été préparée, la Sabina verse un peu d'encens, le copal indien, une sorte de résine, extrêmement fumigène, dont les vapeurs jouent un très grand rôle dans le rite. 21h20. Sur la table, la Sabina prend des champignons. Ces champignons sont répartis, paire par paire, en fonction de chacun d'entre nous, et ces paires vont correspondre vraisemblablement à l'état de chaque personne qui va se soumettre à l'expérience. Les champignons étant déposés sur la table, la Sabina, ayant ainsi achevé le premier élément du rituel, se met à croqueton, ses mains se joignent, elle regarde très nettement la braise. Point de fixation, point de contemplation. Elle prie. Désormais, nous savons que l'expérience va entrer dans sa seconde phase. Je constate la placidité de chacun et, en même temps, l'état de vive tension. Soudain, la Sabina se lève, se dirige d'abord vers notre ami Gutierrez Tibon, qui est l'un des chefs de l'expédition en tant qu'ethnologue, et présente une sorte de coupe qui contient les champignons répartis paire par paire. C'est quatre paires, soit huit champignons, à la fois mâles et femelles. Il nous est absolument prescrit de les consommer tels quels, crus, et surtout de ne rien laisser dans la coupe présentée. Ces champignons ont une odeur âcre, l'odeur tropicale, l'odeur d'humus, l'odeur de fougère, l'odeur de purin, l'odeur d'urine, l'odeur de bois mouillé. Le chapeau est agréable à croquer, mais le pied, par contre, est extrêmement réfractaire. Il vaut mieux commencer d'ailleurs par le pied et en venir ensuite à la coiffe. Ces champignons doivent être consommés, ne l'oublions pas, dans un certain ordre. Chacun donc reçoit sa ration et, à tour de rôle, avec un très bref décalage, nous commençons à consommer. Il nous avait été conseillé, au préalable, de mastiquer et de manger lentement. Cette expérience de manducation dure environ 20 minutes. N'oubliez pas que l'on est à jeun et que, de ce fait, les champignons ingérés vont déterminer dans l'organisme une sorte de révolution, qui sera d'ailleurs assez rapide, comme nous le verrons tout à l'heure. Il est évident que venir à bout de cette consommation, que s'imposer de tout manger, y compris le petit grain de sable ou le petit brin pourri qui reste dans la coupe, représente un effort. Mais nous avons été nettement prévenus, l'expérience étant commencée, vous l'acceptez, l'expérience commençant, il vous faut la poursuivre. Sur ce point d'ailleurs, les textes sont formels. Telle ou telle personne qui a voulu en cours de route se refuser à l'expérience a été pris d'une sorte de crise violente qui ressemble beaucoup à un accès de folie ou de délirium tremens, et il n'y a qu'une solution, expulser au plus vite hors de la salle la personne en état de crise en compagnie de solides indiens. L'expérience donc se poursuit. Nous avons commencé par manger les champignons de 21h20 à 21h40. 21h40. La chose vient d'être accomplie, nous nous regardons les uns les autres, nous venons de déposer nos coupes hors de l'autel, et assez curieusement, on nous demande d'éloigner de nous le matériel photographique. On me prie aussi de laisser ma torche électrique dans un coin près de l'entrée. J'ai gardé dans la poche supérieure d'un veston de daim une boîte d'allumettes, qui semblerait être d'un grand recours si par hasard le désir intervenait à tel moment durant l'expérience d'y voir clair. Curieuse idée, stupidement rationaliste comme vous le verrez. 21h50. Déjà engourdi, mais une sensation de bien-être, j'entends quelqu'un près de moi dire dyspnée, difficulté à respirer. L'atmosphère, évidemment, devient chargée d'électricité. Et tout serait merveilleux dans l'approche de l'épreuve si les autres se taisaient, mais les autres parlent en différentes langues, le mazatèque, l'espagnol, l'italien, l'anglais. Nous nous taisons, dernier moment de lucidité, d'entière lucidité. À 21h55, la sensation de bien-être se poursuit, mais l'engourdissement commence à gagner, le dos semble pris très lentement. À 22h, l'engourdissement gagne en entier, le rythme sanguin est nettement modifié et la montée vers la nuque semble extrêmement vive, la nuque est comme piquée d'étincelles. C'est alors, il est 22h05, 22h07, c'est alors que je constate très nettement les premières difficultés à bien former les lettres. La nuit arrive, je renonce à prendre toute note. Je laisse glisser carnet et crayon, je m'abandonne à l'expérience. 22h10. À notre grande surprise, la fille de la Sabina vient de prendre une fleur sur l'autel et la fleur entre les mains vient de moucher un cierge, puis le second luminaire. Nous n'avions pas été prévenus, mais nous comprenons que désormais nous entrons dans la nuit. Imaginez cette nuit tropicale. La lumière de la nuit filtre quand même par une fenêtre qui sera d'un grand secours, filtre par le haut d'une porte. Ce sont les deux seuls repères vers le monde extérieur que nous pourrons garder. Ainsi que à l'intérieur, alors, cette braise perpétuellement allumée, mystérieusement et constamment rouge. Que va-t-il se passer? Il est évident que tout au guet, tout en tension, tout en état d'attention, assis sur le bord d'un lit de camp, peu confortable, les jambes serrées ou croisées, cramponnées au sol, les mains pouvant toucher le rebord du lit, il est 22h10, l'on est comme armé, tout en se demandant évidemment comment les premières images vont intervenir, comment la première période tant redoutée va se manifester. Soudain, alors que l'on est sur la défensive, comme dans une période de guet, les yeux tout d'un coup éprouvent une sorte de picotement et une sorte de brume grise intervient tout de suite. Il suffit de fermer les yeux un instant et de se dire « on comprend ». Au bout de 10 à 15 minutes d'entrée dans la nuit, les champignons ont agi et les premières images, ou plutôt les premières périodes sombres, vont intervenir. Passé, présent et avenir se catapultent. Et voilà exactement, si vous voulez, la pensée de ceux qui déjà ont pratiqué l'expérience. Connaissons-nous notre passé? Oui, semblerez-vous dire. En fait, nous n'en gardons pas toujours une mémoire consciente. Connaissons-nous le présent, notre présence, l'instant d'avant, l'instant de maintenant? Certes, en fait, nous ignorons les passages, nous ignorons les seuils. Connaissons-nous l'avenir? Voudrions-nous ou voulons-nous le connaître? Tout dépend de la réponse de chacun, mais très curieusement, cette plante multipliant les talents divinatoires de chacun, très curieusement, ces différents moments, le passé, le présent et l'avenir, peuvent soudainement déboucher. Nous sommes hors du temps, nous sommes dans le temps de l'expérience, et ces trois moments, les seuls sans doute que connaisse l'homme, vont intervenir, interférer, s'interpénétrer, et les images désagréables ou les images dramatiques du passé peuvent avoir tout d'un coup comme corollaire les images dramatiques d'un avenir que chacun veut connaître, souhaiterait connaître, que d'autres préfèrent ne pas connaître. La période noire est dangereuse vraisemblablement sur le plan de l'intoxication physique et psychique. Il est évident que tout d'un coup, ce produit ayant pour vertu de multiplier les facultés télépathiques, c'est le substratum de l'être, la psyché, l'état profond de chacun, qui est amené comme à fleur d'âme, comme à fleur d'intelligence. Et dans cette révélation de l'un et de l'autre, du moi et du plusieurs, qui sont en chacun d'entre nous, et dans cette présence du passé et du présent, de cette totalisation résulte une série de drames appelée période noire ou encore période ophidienne. Il s'agit là très nettement de la période d'initiation. entrer dans le noir, entrer dans la nuit, il faut affronter, mais affronter lucidement, et il y a là comme un équivalent du cabinet de réflexion. Nos voisins semblent extrêmement inquiets, les monstres redoutés dans le bestiaire des champignons nous sont connus. Serpents, il s'agit d'espèces très dangereuses, à la fois vives, fines comme des aiguilles ou énormes, songez aux serpents à plumes des Indiens, serpents ou dragons. Et l'un de nos voisins dit tout d'un coup « J'ai le dos dévoré par un dragon ». L'autre dit « Il me mange le souffle ». Nous sommes donc dans cette période noire qui, pour certains, va durer de 10 à 15 minutes. Et j'apprendrai ensuite que l'un de nos amis, à l'autre extrémité de la pièce, le docteur Uteri Tibon, était extrêmement malade alors et a dû avoir recours, par l'intermédiaire de son interprète, au talent de médecin de la Sabina, qui, par imposition des mains, a aidé notre ami à surmonter cette période dangereuse. Dangereuse, je le répète, dans la mesure où il n'y a pas d'initiation sans affrontement, et l'affrontement en question, dans le noir, est obligatoire afin que la lumière naisse. Dans cette période noire, j'ai ressenti cette sensation de brûlure extrêmement atroce dans le dos du dragon, enfin de la bête noire, qui vous dévore. Je ne vais pas dire que j'ai vu le dragon, mais je puis dire que je l'ai affronté et j'ai voulu l'affronter. Il était sur la droite, vers mon épaule. Je me suis retourné, tout en étant incapable de prendre ma propre main. Une sorte d'état de paralysie momentanée découle de l'ingestion de la drogue, mais je me suis forcé, dans le noir, à regarder derrière moi, vers ma droite, à regarder cette chose noire. J'ai vu une chose noire et vive par deux trouées, mais cette chose noire s'est comme diluée dans la mesure où je me suis contraint à l'effort de rotation vers l'ennemi. La chose noire, pour moi, dans cet état d'inquiétude ou de suggestion, que pouvait-elle être? Je savais très bien qu'aucun être monstrueux ne pouvait être là. Mais qu'allais-je éprouver? Immédiatement, la réponse vint. Une sensation griffue vers l'épaule et une sensation de poids. La chose donc était là. Le dragon dévoreur était là, mais dans la mesure où j'avais pu accomplir l'effort de rotation, dans la mesure où mes yeux pouvaient encore être deux yeux. Nous verrons en effet qu'au cours de l'expérience, les deux yeux semblent réunis en un seul globe, dans la mesure où les yeux voyaient et affrontaient la chose dangereuse qui pesait sur le dos, qui prenait l'épaule, qui s'enfonçait. Cette chose était en un sens comme vaincue par le pouvoir du regard, par la volonté qui, afin d'y voir clair, doit affronter le noir. Durant la suite de l'expérience, cette période noire étant désormais affrontée, l'on est pris tout d'un coup par une sorte de délire ou de vertige d'image. Et je me rends compte que des mots comme hallucination, vision, délire, prophétie n'ont eu aucun sens jusqu'alors. La Sabina parle, scande, et il est évident que le rituel, ce rituel-là, est une chose qui nous protège. Une voix intervient, celle d'un ami traducteur, l'ethnologue. La Sabina prie et invoque. Elle invoque les éléments. Nous sommes désormais comme en présence du monde dès l'apparition des premières images colorées. Nous savons qu'il n'y a pas de vision, nous savons que ces images sont en nous. À partir de là, tout commence et cet afflux d'images va durer pendant 3 ou 4 heures. Il dure même maintenant. En effet, l'expérience a pour vertu de laisser la mémoire intacte et il est très impressionnant de savoir que on peut garder la mémoire non pas de l'entier du film des images, mais que l'on peut garder la mémoire de telle séquence, de tel moment. Il faut alors, si vous voulez, pour que les choses soient nettes, distinguer 4 ou 5 étapes. Mais nous ne sommes plus dans la nuit des images, nous sommes dans la fête des couleurs. Et immédiatement, l'association se fait, pendant un temps, si vous voulez, on songe aux choses réelles, l'association se fait avec ce que nous venons de voir. Les dernières fouilles, c'est-à-dire le séjour à l'intérieur d'une pyramide, ou les dernières marches dans la forêt, avec cette extraordinaire luxuriance de la végétation tropicale, vive, verte, d'un vert acide, attaquante, constamment sur la défensive, nous en savons quelque chose, ayant été tous plus ou moins brûlés ou piqués par des plantes. Celle que nous venons d'absorber a déclenché en nous l'incessant tourbillon des images. Et, au marché, la veille, nous avions acheté, non sans crainte, certaines plumes, dites magiques. Le goût des Indiens pour les plumes est une chose stupéfiante. Ces coloris très vifs, qui se retrouvent d'ailleurs aussi bien dans les mosaïques ou dans les fresques, ces coloris très vifs s'expliquent désormais, selon nous, par la pratique des champignons sacrés ou par la pratique du peyalt, et il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'image vive trouvée par les artistes sans un stimulant. Je ne veux pas dire par là que la pratique des couleurs ressenties durant l'expérience peut permettre de trouver ensuite d'autres couleurs, mais que l'aigu atteint par les couleurs durant l'expérience exige que, ensuite, l'on trouve dans l'art et dans tout ce qui environne l'Indien, l'on trouve la même violence de couleurs. Sans doute connaissez-vous les images dites hypnagogiques, ou plutôt avant le sommeil. Ce sont des images vives, colorées, en tourbillon ou en rotation, incessantes, que l'on peut plus ou moins conduire à sa guise. Ici, rien de tel. On est pris dans un flux, dans un reflux, dans un tourbillon. L'on est à la fois dans une sorte de mer d'émeraude profonde, où les algues se développent libres, en faisceau cependant, en bottes. L'on est constamment sous une série de filaments pointus ou aigus, et, très souvent, du vert, l'on passe au rose ou au jaune, et enfin à l'or. L'or serait le 4e stade, et les textes lus ensuite ou redécryptés ensuite, surtout chez Hermès Trismégiste, rassurent sur la présence de cet or. Au 4e stade, au 4e palier, correspond l'état de palingénésie ou de renouveau. Et c'est alors qu'intervient une sourde rumeur. Du fond de l'océan, l'on est passé en état de lévitation horizontale sous les astres et sous leurs signes. L'on est pris par une sorte de rumeur, le grand chant, qui est bien le chant du renouveau. Vers le réveil. Il est plus d'une heure. Au moment de la période de fête, nous entendions cette sorte de grande rumeur et, à partir de là, nous commencions aussi à prévoir ou à deviner une sorte de déclin ou une sorte de retour ou une sorte d'aller vers un autre seuil. Je me cramponnais à plusieurs reprises à cette lumière de la nuit et tout d'un coup, j'ai vu très nettement que cette lumière devenait plus grise. À ce moment-là, Guthrie Tibbon, qui était notre conducteur ou le principal interprète, éleva la voix et très catégoriquement déclare « l'expérience est terminée ». Cette voix nous obligeait à reprendre conscience de nous, ou plutôt exigeait que nous essayions de rentrer dans la peau de l'homme ou de la femme d'il y a 5 ou 6 heures. Dans le même temps, les officiants secondaires qui se tenaient dans l'ombre se levèrent et les cierges, les luminaires furent de nouveau brillants. Et nous découvrons, affaissés sur leur natte, la Sabina, sa fille et l'enfant, et Guthrie nous demande « Êtes-vous en état de marcher ?» Cette parole exigeait non pas une réponse, mais un effort. À ma grande surprise, les membres ont répondu. J'ai retrouvé mes mains, qui avaient comme disparu au cours de l'expérience. J'ai pu m'asseoir. Pouvez-vous vous lever? Pouvez-vous marcher? À ma grande surprise, j'ai pu faire quelques pas vers la natte et, geste, disons, d'offrande vers la Sabina, lui prendre la main et laisser un baiser sur cette main. De ses yeux extrêmement vifs, brasillants, la Sabina, comme non pas écroulée sur sa natte, mais tassée, ayant près d'elle sa fille et l'enfant, nous regardait et nous éprouvait. C'était la première fois où, après l'expérience, les uns et les autres étant initiés, nous pouvions supporter et comprendre le regard de quelqu'un qui savait, et l'hommage étant rendu à la Sabina, sans dire mot, les uns et les autres, nous sommes sortis dans le village. Nous avons gagné la rue principale, mais en direction de la campagne. Nous sortions très nettement du labyrinthe cosmique pour découvrir la nuit sous les étoiles, en montagne, à Huautla de Jiménez, à plus de 2000 mètres, et nous pensions, pour reprendre pied tout à fait dans le réel, pouvoir accomplir une sorte de marche qui aurait été d'ailleurs aussi un pèlerinage vers un col extrêmement célèbre. La Sabina habite tout près et nous pensions que nos forces nous permettraient d'aller assez loin. Mais ce souhait était assez puéril. Les Indiens nous guettaient et ils correspondent entre eux par signaux. L'ensemble du concert devenait tellement insupportable et nous avions tellement conscience de pénétrer dans un pays ami, à un moment qui désormais devait être gardé pour le sommeil et pour le repos de chacun, c'est-à-dire le silence, nous avons eu tellement conscience de ce fait que très calmement et très silencieusement, nous sommes rentrés vers l'hôtel et alors nous avons découvert, à notre grande surprise, que l'hôtesse avait préparé pour chacun d'entre nous une tasse de café très fort, nécessaire, nous a-t-elle dit, avant les quelques heures de sommeil qui vous permettront demain matin de mieux comprendre.
C'était La Liberté Coupable, troisième série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composée par René de Sollier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, notre expérience, avec la voix de la Maria Sabina, assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 23 novembre 1963. À suivre.